De retour à l'émission Au gré du temps, nous sommes en compagnie de Pierre Degagné. Nous avons entendu cette belle interprétation presque du chant grégorien de la Scola Musica. C'était quand même une chanson des Beatles. Une grande influence qu'a eu John Lennon au sein du groupe. Avec une interprétation grégorienne, on peut méditer aussi à ce grand message d'amour qu'il a voulu laisser, parce que ces chansons traitaient profondément d'amour.
Absolument. C'est un des fiertés, je dirais, des Beatles. Et j'entends souvent Ringo qui dit ça. Toujours, on ne parlait que d'amour.
On va parler de John Lennon d'une façon tout à fait presque ludique, parce qu'on va entendre Pierre Degagné, alias Pierre Oxide. Vous avez composé une chanson sur John Lennon que j'ai entendue, qui est vraiment très belle, qui ressemble d'ailleurs aux intonations que pourrait chanter John Lennon. Présentez-nous quand même, parce qu'elle est en anglais, le message de votre chanson. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Je me suis réveillé un matin, puis j'avais une mélodie en tête, et puis quand les mots se sont placés, c'était comme si je parlais à John. Je crois que j'avais rêvé à John Lennon, d'ailleurs, cette nuit-là, et je discutais avec lui, ou je jouais de la musique, et puis je lui disais que j'étais content de lui jouer cette chanson-là que j'avais faite pour lui. Et puis, donc, en me réveillant le matin, j'avais la mélodie qui me tournait en tête, évidemment. J'ai travaillé la chanson, puis j'ai travaillé beaucoup parce que j'essayais de faire une chanson à la Beatles et les Beatles sont très perfectionnistes, donc ça m'a pris plusieurs mois pour la travailler, faire les arrangements, la composer. Mais il y a aussi plusieurs clins d'œil aux Beatles, un peu de sitar, un peu de brass, des trompettes. Vous allez même reconnaître peut-être certaines mélodies. C'est quand même une chanson original, c'est pas une interprétation, j'ai pas copié sur une chanson des Beatles, mais à la fin, le message, on pourrait dire que là, de plus en plus, je deviens inspiré par les Beatles et de plus en plus, je m'approprie une partie de leur mélodie et à la fin, c'est un peu inspiré de la pièce « I Want You ». Mais je chante « We miss you, John », parce que le fait qu'il soit mort, évidemment, il y a énormément de gens sur la Terre qui disent « On s'ennuie de John » parce qu'il faisait pas juste des belles chansons, mais il faisait tout un cinéma, finalement, de sa vie. À tous les jours, on parlait de John Lennon quand il était vivant, parce que c'était un être assez incroyable, qui avait des idées et toujours original, toujours des trucs. D'ailleurs, il était très souvent incompris.
Et le titre de cette chanson?
Dear John Lennon.
Dear John, I wrote this simple song for you. I hope it sounds a bit like you. Cause after all, I got it from you.
As deep as yours. In my dreams, lovely dreams.
Dear John Lennon, interprété par Pierre Oxide, de son vrai nom Pierre Degagné, qui est avec nous. Bravo d'abord pour cette
Merci.
Belle interprétation et cette belle composition, puisque vous en êtes l'auteur. Est-ce que vous allez en produire d'autres de ce style-là?
De ce style-là, je sais pas, parce que chanter en anglais et composer en anglais, c'est pas vraiment où est-ce que je suis le plus à l'aise. Là, j'avais une raison, parce que dans le fond, je voulais parler à John, et puis le message que je voulais lui envoyer, je voulais être sûr qu'il me comprenne.
Mais vous êtes toujours très proche du milieu musical.
Toujours très proche du milieu. En ce moment, je compose des nouvelles chansons, en français, évidemment, pour un futur album de chansons de Pierre Oxide. Peut-être des chansons un peu plus intimiste que mes deux autres albums, où est-ce que j'avais des histoires un peu étranges et saugrenues et un peu sarcastiques des fois, même des fois un petit peu plaignard sur les bords. Là.
Vous avez eu la chance de travailler avec quelqu'un qui est aussi un grand, grand passionné des Beatles, Gilles Valiquette.
Absolument.
Vous avez enseigné à son école.
Oui, pendant 25 ans.
Et j'imagine que pendant les pauses, vous parliez un peu des Beatles.
Très souvent, on parlait des Beatles.
Il a produit, je crois, un livre il y a quelques années, une année ou deux, une brique là, assez volumineuse sur les anecdotes, celles dont vous nous faites part, parce qu'il y en a une tonne. Et lui, ça fait longtemps qu'il collectionne littéralement souvent des albums inédits qui n'ont jamais été ouverts, c'est exact?
Absolument, Gilles. Quand il achetait un album, que ce soit des Beatles ou d'autres groupes d'ailleurs, il les achetait toujours en double. Un qui l'écoutait, puis un qui gardait sous scellé. Mais
ah,
surtout
oui.
Les Beatles. Et je crois qu'il a une collection. J'ai jamais vu sa collection, mais il se promène un peu partout dans le monde pour aller dans des encans puis acheter des trucs. Je sais pas s'il le fait encore, mais à l'époque, en tout cas, il faisait ça. Et...
C'est curieux parce que Paul McCartney, lorsqu'il est venu au Québec, avait raconté à un moment donné à un reporter que les collectionneurs avaient plus de choses concernant les Beatles que lui-même pouvait en posséder.
Absolument, absolument.
Ça, c'est incroyable.
Mais quand on sait qu'un un simple manuscrit de chanson ou une feuille de papier peut valoir des dizaines, des cinquantaines de milliers de dollars, c'est incroyable.
Mais les gens qui les ont n'ont pas tendance à les vendre, ils les conservent précieusement. Ne serait-ce qu'un billet, parce que je sais que les Beatles sont venus au Québec en 1964, je crois, au Forum de Montréal. Et si vous aviez en main un billet de cette époque et que vous l'avez conservé, ça vaut beaucoup d'argent. Mais ceux qui en ont ne veulent pas le vendre, ils veulent le conserver précieusement.
C'est un objet précieux.
C'est comme une relique.
C'est ça.
On va entendre maintenant une autre adaptation française d'une grande chanson des Beatles, Here, There and Everywhere. Ça date de 1967, je pense, cette chanson. Là, les Beatles ont quand même beaucoup
peut-être
évolué.
Peut-être un petit peu avant, oui, 66,
peut-être que la version de Monique Lérac.
Ah, peut-être, oui.
Monique Lérac qui a enregistré les Beatles. Ça, c'est quand même assez inédit, intéressant. On va entendre ça dans quelques secondes. Mais si on parlait des Beatles de cette époque, 1966-67, autour d'eux, on est en transformation. Là.
C'est la grande transformation parce qu'ils ont décidé d'arrêter de faire des spectacles parce que c'était vraiment le cauchemar. C'était pas très bien organisé à l'époque et c'était très, très difficile. Et eux-mêmes, ils s'entendaient pas sur scène. Donc, ils devaient crier. Puis, ils ont fini par se dire si on pouvait arrêter les spectacles et aller en studio et commencer à faire vraiment de la vraie musique. Et c'est là que les Beatles ont éclaté d'une façon vraiment géniale et tous les disques qui ont sorti après cette période-là sont très, très, très riches musicalement parlant et un fait étrange, toujours différent. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de très étoffé comme Sgt. Pepper, où est-ce qu'il y a énormément d'instruments puis c'est très complexe, ben ensuite de ça, quelques albums plus tard, on tombe à quelque chose de beaucoup plus simple, des chansons juste à la guitare, voix, une petite trompette qui vient jouer ici et là. On s'organise pour vraiment dérouter, évidemment, tous ceux qui suivent à essayer d'imiter les Beatles.
Est-ce que Here, There and Everywhere est une chanson importante?
C'est une chanson très importante, absolument. Je crois que c'est sur l'album Revolver. C'est une chanson de Paul, qui est une chanson intime, un peu intimiste.
Alors, en français, c'est devenu « Dis-moi ». Voici Monique Lérac.
Comme un enfant, tu dors et ne m'entends plus déjà. bras avant moi. Rappelle-toi que tu t'endormais sans moi. Dis-moi qui te berçait autrefois, qui t'embrassait comme moi. Les yeux clos, tu dors déjà, tu t'en vas loin de moi. Loin de moi, à quoi rêves-tu, à qui dis-moi, qui te murmurait tout bas ces mots d'amour que je ne dis qu'à toi. Rappelle-toi, les disait-elle mieux. Mais tu ne réponds pas, les yeux clos, tu dors déjà, tu t'en vas loin de moi. Loin de moi, qui rêves-tu, à qui dis-moi, qui te prendra dans ses bras pour t'embrasser comme moi. Après-moi, ne m'oublie pas. Je ne serai plus là. N'oublie pas, ne m'oublie pas, n'oublie pas, ne m'oublie pas.
On savait que Monique Lérac avait chanté les grands chansonniers du Québec, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, mais on vient de découvrir qu'elle a aussi chanté les Beatles. Donc, preuve additionnelle qu'ils ont eu une influence internationale. N'est-ce pas?
Absolument.
Parlez-nous de cette période dont vous avez évoqué quelques mots, c'est-à-dire la fin, vers la fin des Beatles, vers la fin des années 60, où le groupe a commencé à se transformer, où chacun aussi commence à prendre une tangentes différentes. On sait ce qui est devenu John Lennon, Paul McCartney qui aussi se distance. Est-ce que c'est le contexte social qui a amené justement la dislocation de ce groupe?
Bien, comme j'expliquais tantôt, quand à l'âge de 20-24 ans, tu es au top du monde, tu cherches quelque chose. George est probablement celui qui a le plus évolué à cette époque-là. Il était beaucoup attiré par les Indes. C'est là qu'ils sont allés en voyage, faire de la méditation. C'est là qu'ils ont composé l'album Blanc, une cinquantaine de chansons en l'espace de quelques semaines. Et George recherchait beaucoup le côté divin.
C'est lui qui a composé My Sweet Lord.
C'est lui qui a composé My Sweet Lord.
C'est vraiment un hymne à Dieu.
Un hymne à Dieu. D'ailleurs, il était très attiré par la religion indienne, les Krishna. Quand il est mort, je crois qu'il a fait une grosse partie de don de son héritage à la religion des Krishna. Et je crois que même qu'il a été, ses cendres ont été jetées dans le Gange en Inde.
Et pour Lennon et McCartney, est-ce que le divorce a été facile?
Non, ça a été très difficile parce que les Beatles n'étaient pas des gens qui étaient beaucoup à l'argent, je crois, à cette époque. C'était vraiment des artistes. Donc, ils savaient qu'ils étaient riches, ils savaient qu'ils avaient de l'argent, mais ils ne savaient pas combien. Et puis, quand leur gérant est mort, c'était de trouver un nouveau gérant et c'est là que la discorde a commencé. Paul voulait que ça soit, je pense que c'était le père ou en tout cas quelqu'un de la famille de sa femme. Et les trois autres avaient choisi Alan Klein, qui avait été le gérant des Rolling Stones. Et Paul ne faisait pas du tout confiance à Alan Klein. Et d'ailleurs, il avait raison. Quelques années plus tard, on a vu qu'Alan Klein n'a pas été très honnête avec les Beatles.
Et les droits des Beatles ont été rachetés quelques années plus tard par une grande vedette américaine, Michael Jackson.
Absolument, oui. Ça, c'est une autre histoire. Là, on s'embarque dans un autre sujet.
Mais Dieu sait que ça représentait, tout ça pour dire que ça représentait quand même une fortune colossale.
Oui, oui.
On va entendre un extrait, parce que Paul McCartney, on disait tantôt que c'est un mélodiste. Il a composé, il y a quelques années, au début des années 2000, je crois, son fameux Liverpool Oratorio, l'Oratorio de Liverpool. C'est une pièce qui est composée avec la complicité de Carl Davis, de l'Orchestre philharmonique de Liverpool, qui le dirige d'ailleurs. Alors, on va entendre un extrait du deuxième mouvement, marqué School, et c'est l'orchestre et le chœur royal philharmonique de Liverpool et les chœurs de la cathédrale de Liverpool sous la direction de Colin Davis et la voix magnifique de la soprano Kirite Kanawa et Jerry Hadley, ténor. C'est un style qui est quand même déconcertant parce qu'on est vraiment là, dans la musique presque sacrée composée par Paul McCartney.
Ah, je suis curieux d'entendre.
Constantly drifting, endlessly lifting, more weight than one man can bear. Into the future, ghosts of the past everywhere.
Ghosts met the past.
Pierre, le temps nous bouscule. Si on devait dire quelque chose, absolument, il ne faut pas l'échapper sur les Beatles. Qu'est-ce qu'on dirait?
La joie de vivre et l'amour entre quatre personnes qui étaient vraiment proches. Et c'était ça la force des Beatles.
Quelle est l'influence profonde qu'auront légué ces quatre gars pour l'ensemble de la musique, quelle qu'elle soit, à votre avis?
Je crois que ça serait de dire que la musique pop peut être aussi intéressante que la musique sérieuse, que la musique classique.
Parce qu'on n'a aucun doute que ces chansons, ces mélodies, parce qu'on le voit maintenant, elles sont adaptées de différentes façons, on va sûrement les interpréter encore dans 100, 200 ou 300 ans. C'est de la musique universelle.
Et éternelle.
Éternelle. Alors, écoutez, merci beaucoup pour ce beau clin d'œil à la musique des Beatles. Je sais qu'il y aurait plein de choses à raconter. On avait des feuilles et des feuilles de notes ici et on n'a pas pu le... C'est trop passionnant comme sujet.
Ouais,
mais il existe, si on veut s'intéresser aux Beatles, il existe, je pense, une panoplie de volumes.
Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur les Beatles.
Et je vais vous en recommander seulement un. Ça s'appelle All the Songs, c'est-à-dire toutes les chansons, The Story Behind Every Beatles Release. Donc, l'histoire derrière chacune des chansons qui a été mise sur le marché. C'est une brique qui doit y avoir pas loin de 700 pages et je le recommande fortement.
Mais j'inviterai les gens aussi à écouter leur musique, leur album, parce que c'est de là que tout commence. C'est pas juste des vedettes.
Alors, avec votre passage, on va écouter maintenant les Beatles de manière différente. Et pour terminer, vous nous avez sélectionné une originale. C'est la chanson des Beatles qui a pour titre...
Here Comes the Sun, une chanson de George Harrison. C'est une de mes chansons préférées des Beatles. Et à ce moment-là, George écrivait des chansons aussi bonnes que John et Paul.
Merci beaucoup pour ce passage et demeurez à l'écoute. D'autres émissions vont suivre. C'était l'émission Au gré du temps, axée spécialement sur les Beatles. Au plaisir.
Merci.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Thank you.
She's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.